Bonjour, il faut plus de femmes au Parlement. À 6 semaines des élections, la Commission fédérale pour les questions féminines a lancé ce matin sa campagne en faveur d'une meilleure représentativité entre les sexes sous la coupole. Nous ferons le point avec Vincent Bourquin et nous recevrons Étiennette Véré, présidente de cette commission. 10 ans après les attentats du 11 septembre 2001, 20% des personnes touchées de près par le drame souffrent toujours de stress et d'anxiété. Nous entendrons le psychiatre français Christian Navarre, spécialiste des situations de crise, et le dernier volet également de notre série d'entretiens réalisés avec Vincent Emery, ce Suisse de 34 ans installé à Boston. 3 heures pour le Japon, c'est le nom d'une performance artistique à découvrir demain à 15h au théâtre de 21 à Lausanne. Le comédien Jacques Roman lira des extraits du livre Orishima, Fleur d'été de Tamiki Hara, un pont dressé avec Fukushima au profit d'une association japonaise en faveur des enfants. Jacques Roman sera notre invité à la fin de ce journal. Soleil et douceur cet après-midi sur nos régions avec des maximales de l'ordre de 26 degrés en pleine. La journée de demain s'annonce carrément estivale, avec un grand ciel bleu et un mercure qui flirtera avec les 29 degrés en vallée. Le ciel se couvrira dimanche après-midi avec des averses sur l'ensemble de la Suisse romande en soirée, nous dira Stéphanie Koller. Davantage de femmes au Parlement, c'est donc le credo de la Commission fédérale pour les questions féminines. Appuyée par d'autres associations, elle lance une campagne intitulée « Les femmes pour l'avenir », campagne qui se base notamment sur l'étude de la politologue Regula Stempfli, qui a recensé les embûches rencontrées par les femmes en politique. Vincent Bourquin.
Oui, et selon elle, les médias présentent de plus en plus la politique sous l'angle du divertissement et du spectacle. Ainsi, les hommes, et surtout les femmes politiques, seraient jugés davantage sur leur apparence physique que sur leurs arguments. Les opinions et les émotions auraient donc été devancées par le contenu. Pour la politologue, il est donc totalement faux de dire que les femmes sont lassées par la politique. Et selon la chercheuse, les partis politiques doivent absolument prendre des mesures actives pour qu'il y ait plus de femmes au Parlement. Seuls ceux qui ont agi concrètement ont vu ces dernières années leur représentation féminine augmenter. Actuellement, les femmes représentent 30% au Conseil national et 20% aux États. Mais cette année, il y a moins de candidates qu'il y a 4 ans, d'où aussi cette campagne intitulée « Les femmes pour l'avenir ». Toutefois, Regula Stempfli considère que la situation est meilleure en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Le système de prise en charge des enfants serait meilleur et il y aurait plus de femmes jouant un rôle important dans le monde des médias et dans celui de la politique. Et puis de manière générale, pour conclure, la politologue considère qu'il y a en Suisse une dépolitisation générale qui touche tout le monde et pas seulement les femmes.
Vincent Bourquin, en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne, à vos côtés, Étiennette Véré, bonjour.
Bonjour Monsieur Racana.
Présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines, c'est pas un peu à part, un peu tard pour lancer cette campagne, les listes sont déjà bouclées?
Oui, c'est clair. Le projet a déjà commencé beaucoup plus tôt. On a commencé l'année passée et je dois faire une petite rectification. C'est la commission qui a lancé ce projet, mais ce sont les organisations féminines fêtières qui ont élaboré le projet. Ces organisations sont représentées dans la commission et ont fait ce travail dans le cadre de leur travail dans la commission. Donc, les candidatures sont évidemment déjà, toutes les listes sont bouclées, comme vous dites, mais nous avons commencé le projet l'année passée, nous avons écrit à tous les partis cantonaux, donc nous avons envoyé 150 lettres aux partis dans tous les cantons, leur demandant ce qu'ils ont l'intention de faire pour promouvoir les femmes dans leur parti et pour qu'il y ait plus de femmes au Parlement. Et c'était la base pour l'étude de Madame Stempfli. Les réponses que nous avons reçues. Une autre partie du projet, c'est que nous avons écrit à toutes les parlementaires d'envoyer un témoignage et que nous avons posé sur notre site web Les Femmes pour l'Avenir. Plus que la moitié des parlementaires a répondu à cet appel et vous trouvez sur le site toute une variété de raisons pour lesquelles les femmes devraient être mieux représentées au Parlement.
Comment est-ce que vous expliquez finalement cette sous-représentation féminine aux chambres fédérales, Étiennette Véré ?
C'est surtout, c'est des questions structurelles, des difficultés structurelles qui existent, mais il faut surtout aussi regarder la différence qu'il y a entre les partis. Parce que si on regarde bien, le Parti socialiste et les Verts, là, les femmes sont représentées à 50%. C'est surtout dans les partis bourgeois et encore plus à l'extrême droite où il y a énormément de boulot à faire.
En même temps, il y a quand même 4 femmes au Conseil fédéral.
Oui, ça c'est magnifique. Mais malheureusement, je crains que ça va un petit peu changer le 14 décembre. Mais on a eu beaucoup, c'est vraiment super et nous trouvons qu'elles font un bon boulot, ces conseillères fédérales.
Votre objectif maintenant, c'est d'inciter la population à voter en priorité pour les femmes.
Exactement. Nous avons fait une carte pour faire de la propagande. Et ces cartes publicitaires, elle a été diffusée par toutes les organisations féminines fêtières suisses. Et ça représente environ 1 million de femmes. C'est donc une grande force qui a l'occasion, qu'on peut atteindre par ce moyen-là. Et nous aimerions inciter les femmes à voter pour les femmes, mais aussi les hommes à voter pour des femmes.
Et le message est passé. Merci beaucoup, Étienne Edveret, d'être venue en direct dans ce journal, présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines, invitée par Vincent Bourquin. Bon après-midi à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Et en parlant d'élections, le centre droit a eu la main verte lors de la dernière législature. C'est ce qui ressort de l'éco-rating présenté ce matin par les organisations environnementales à Berne. Elles ont analysé les votes des 246 parlementaires en fonction des promesses prises il y a 4 ans et les ont classées à la manière des étiquettes qui mesurent l'efficacité énergétique des appareils électroménagers. Christian Favre.
Sans surprise, ce sont les parlementaires de gauche, socialistes, verts et chrétiens sociaux qui collectionnent les meilleures notes. Un seul parti bourgeois s'invite en tête de ce classement de l'engagement environnemental, les Verts libéraux. La nouveauté, elle, vient du centre droit qui n'a cessé de verdir durant ces 4 dernières années, en particulier sous l'impulsion du PDC et du Parti bourgeois démocratique. Écoutez les explications de Caroline Beglinger de l'association Transport et Environnement et co-auteur de ce rating.
Ils ont verdi d'une part déjà avant les catastrophes au Japon, on a vu que certaines personnes sont vraiment sensibles à la gestion des ressources, à l'avenir de notre planète, de notre pays, qui voient aussi des opportunités économiques. Évidemment, la catastrophe au Japon a remis beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vue en question. Là, tout parti des gens ont été sensibilisés.
Si le centre droit est bien noté, les partis bien ancrés à droite de l'échiquier boivent la tasse. Les parlementaires PLR, UDC ou de la Lega se distinguent par leur vote quasi systématique en défaveur des objets environnementaux. Notons que seuls 10% des PLR ont accepté de jouer le jeu et de répondre aux questionnaires complémentaires des organisations écologistes. En termes de respect des promesses électorales prises en début de législature, ce sont encore les PLR et l'UDC qui enregistrent les plus mauvais scores. Sur le plan géographique, les romans sont plus engagés sur le terrain environnemental. Au niveau des genres, les femmes se distinguent. On retrouve Caroline Beglinger.
On voit une énorme sensibilité par rapport à ce sujet, et ceci tout parti. Donc je pense qu'en beaucoup de votations, finalement, les femmes ont fait pencher la balance en faveur de l'environnement et on voit vraiment un sens des responsabilités pour la planète, pour nos ressources.
À quelques semaines des élections fédérales, ces résultats doivent permettre aux électeurs de déterminer l'épaisseur des convictions environnementales de leurs champions. Reste à déterminer quel poids ce genre de rating peut avoir à l'heure où les préoccupations environnementales sont sérieusement concurrencées par les enjeux économiques et sociaux liés à la force du franc.
Et vous pouvez consulter ce classement écolo des parlementaires sur le site ecorating.ch. Le nom du conseiller d'État vaudois Jean-Claude Mermoux, décédé tôt mardi matin, a été retiré de la liste des candidats UDC à l'élection au Conseil des États. Une annonce faite il y a quelques instants par le gouvernement dans un communiqué. Normalement, une candidature ne peut être radiée une fois les listes déposées. Mais dans ce cas, le président du bureau électoral a trouvé une faille dans la loi sur l'exercice des droits politiques pour pouvoir tout de même enlever le nom de Jean-Claude Mermoux. En revanche, impossible de remplacer le nom du ministre par un autre candidat. Guy Parmelin partira donc bel et bien seul dans la course au Conseil des États pour l'UDC. Les défis sécuritaires à venir dans l'espace aérien helvétique, c'était l'objet d'une conférence de presse et de la visite du centre de Skyguide organisé ce matin à Dubendorf, près de Zurich. Le contrôleur aérien a présenté les enjeux et les défis à venir dans ce domaine, Rouven Guessa.
Oui, qu'est-ce que la sécurité pour Skagen et à quel point l'espace aérien suisse est-il sûr? C'est entre autres pour répondre à ces questions que le contrôleur aérien a ouvert ses portes aux journalistes ce matin et aussi pour montrer que 9 ans après le crash du Burlingen, eh bien, de nombreuses procédures ont été changées. La sécurité est aujourd'hui un département à part entière depuis 3 ans au sein de Skagen qui gère 3000 vols par jour et de tous les incidents déclarés, le bureau d'enquête sur les accidents d'avion n'investigue que 3 ou 4 cas en moyenne par année.
Et qu'est-ce qui attend Skagen dans les années à venir, Ruben ?
Alors, deux principaux défis. Le premier, il s'agit de développer la sécurité et les processus en même temps que l'augmentation du trafic aérien. Et pour le second, eh bien, il s'agit de tenir la justice à l'écart pour Skagen. En fait, il s'agit avant tout d'apprendre des erreurs et des incidents. À l'interne, le contrôleur essaye de cultiver une culture de la transparence autour des erreurs ou des situations critiques. Ce qui pose problème, évidemment, quand la justice s'en mêle sur un cas particulier et qu'elle intervient, parce qu'automatiquement on parle alors de culpabilité et de responsabilité, et ça ce sont, selon les responsables de Skagen, deux obstacles clairs à la transparence.
Ruben Guessa en direct de Dubendorf. Des allègements d'impôts et de charges sociales pour les PME, des mesures en faveur des chômeurs et des investissements dans les infrastructures, c'est en substance le contenu du plan emploi présenté hier soir par Barack Obama, doté de 447 milliards de dollars. Le plan est censé donner un électrochoc à l'économie américaine et relancer l'activité. Et c'est aussi un message politique très fort adressé aux adversaires républicains du président américain. Cédric Thi, professeur d'économie à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève.
Le Parti républicain semble être beaucoup plus intéressé à faire échouer Obama qu'à fixer les problèmes de l'économie. On l'a vu au mois d'août avec les négociations sur le plafond de la dette. Là, on voit vraiment le président taper du poing sur la table et mettre le Congrès devant ses responsabilités, souligner le besoin de s'occuper du problème du chômage. Les États-Unis ont un taux de chômage à 9%, ça fait 3 ans. Ils ont un problème de chômage qui commence à ressembler au problème européen, mais sans le filet de protection sociale qu'on a ici en Europe. Donc c'est vraiment un problème qui risque de pourrir les perspectives de l'économie américaine sur bien des années.
Alors si on prend ce plan dans les détails, quel est l'élément que vous retenez ?
La partie principale est en fait une réduction des impôts. Alors c'est très bien pour les gens qui ont déjà un emploi, mais c'est clair que pour ceux qui cherchent un travail, ça ne les aide pas directement. On a aussi un plan de relance des infrastructures dont les États-Unis ont bien besoin. Quoique le montant dont on parle dans le plan reste quand même assez faible.
Cédric Thi, interrogé par Fabrice Godiano. En Libye, Interpol annonce ce matin avoir lancé des notices rouges pour demander à ses 188 pays membres l'arrestation du colonel Mouammar Kadhafi et de plusieurs de ses proches visés par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. La sociologie est à l'honneur cette semaine à l'Université de Genève. La faculté des sciences économiques et sociales reçoit jusqu'à demain près de 3000 chercheurs, professeurs et penseurs venus du monde entier pour discuter de l'étude des phénomènes sociaux. Louis Sigen Lopez.
C'est la première fois que la Suisse reçoit le congrès biennal de l'Association européenne de sociologie depuis sa création en 1992. Et pour sa 10e édition, cette année, le rassemblement occupera les académiciens autour d'un thème actuel, les relations sociales en temps de trouble. Dans le domaine, même si la Suisse n'est pas une référence, elle a sa carte à jouer au niveau national et international. Sandro Katacin, professeur ordinaire du département de sociologie de l'Université de Genève et organisateur du 10e congrès de sociologie européenne.
La Suisse en général, c'est un pays où la sociologie n'est pas la discipline de référence. Ceci dit, cette petite communauté a un rôle très important dans ce pays. On est fortement sollicité par la radio comme dans ce cas-ci, mais aussi par la politique, par les administrations publiques pour redonner quelque part de l'orientation quand il y a ces troubles qu'on est en train de vivre. En ce qui concerne Genève, la deuxième chaire mondiale qui a été créée en sociologie après celle d'Émile Durkheim, eh bien, c'est une année plus tard, ici à Genève, qu'elle s'est ouverte. En 1886, on a une tradition de sociologie à Genève et aujourd'hui, pour parler des temps actuels, ensemble avec l'Université de Lausanne, on crée un centre de compétences dans ce domaine.
Témoin du succès de ce genre d'événement académique, en 20 ans, le nombre de participants au congrès de sociologie européenne a presque triplé.
Un magazine réalisé par Loïs Sigan Lopez.
Le 12-30, David Racana.
Dernier volet de notre série d'entretiens consacrée aux 10 ans des attentats du 11 septembre 2001. On retrouve Vincent Emery, ce Suisse de 34 ans, né à Sion, diplômé de l'université de Saint-Gall qui habite à Boston où il a fondé la société Réseau Interactive, spécialiste des relations humaines. Il nous dit ce que représente New York pour lui aujourd'hui.
Pour moi, New York aujourd'hui, c'est une ville qui se transforme encore plus rapidement qu'avant le 11 septembre. Puisqu'avant le 11 septembre, c'était encore une ville où on se focalisait sur Wall Street, le tourisme, les spectacles, la mode et les médias. Avec ce qui est arrivé avec le 11 septembre, les gens, surtout dans les quartiers, je dirais pas Manhattan, mais Brooklyn, le Queens, les gens sont repris en main et ils ont commencé à créer des nouvelles entreprises. Et maintenant, New York est en train d'être en concurrence avec la Silicon Valley. Puisque maintenant, c'est là où on trouve le plus de développeurs en logiciel aux États-Unis. Et la ville de New York fait des subsides pour des jeunes entrepreneurs, pour des bureaux, pour accéder au financement d'entreprises, pour trouver des employés. Donc New York est en train de se transformer en devenant une sorte de Silicon Valley urbaine. C'est très intéressant ce qui se passe sur les 5 dernières années. Ça vient aussi du maire Bloomberg, qui sera maire exceptionnellement pour 12 ans et qui est aussi un entrepreneur. Et lui, il voit exactement, il a dû relever la ville parce que le maire Giuliani a dû démissionner puisque c'est des mandats de 8 ans. Donc il a dû régénérer la ville et il est parti sur d'autres choses que la finance ou les industries traditionnelles de la ville de New York. Je pense qu'il y a eu plus de blocages avec la crise des subprimes il y a 2 ans qu'avec le 11 septembre.
Vincent Emery, interrogé à Boston par Patrick Nussbaum et Urs Kfeller. Et 10 ans après ces attentats du 11 septembre 2001, l'Institut américain de la santé mentale a mené une grande enquête pour évaluer les séquelles post-traumatiques sur les 500 000 personnes touchées de près par la tragédie. Une étude qui montre que 20% d'entre elles souffrent toujours de stress et d'anxiété. Nous avons joint le psychiatre français Christian Navarre, spécialiste des situations de crise et auteur du livre « Le psy des catastrophes » paru aux éditions Imago. Nous lui avons d'abord demander quels étaient ces symptômes. Écoutez.
Et on peut dire quand même que de façon quasi universelle, on retrouve après des événements majeurs de ce type les mêmes symptômes sur le plan médical, c'est-à-dire des cauchemars, des ruminations intenses, l'incapacité de retrouver une vie normale, la vie d'avant. Et donc ça entraîne effectivement pour un grand nombre de personnes qui étaient ou victimes ou impliquées ou proches des victimes, des modifications durables sur leur personnalité avec une souffrance et une détresse pour de nombreuses années.
Est-ce qu'on arrive quand même à s'en remettre et à essayer de vivre, on va dire, normalement ?
Ce qu'on sait, c'est que plus les troubles sont pris en charge de façon précoce, c'est-à-dire après l'événement, à la fois en termes de verbalisation, de psychothérapie, mais aussi de médicaments si besoin, anxiolytiques, antidépresseurs, meilleur sera le pronostic. Le problème, c'est pour les personnes qui vont être prises en charge trop tard. Mais néanmoins, vu l'impact qu'a eu sur la planète l'événement, par exemple, du 11 septembre, eh bien, on sait aussi que tout un groupe de population, de façon même générationnelle, pendant des dizaines d'années et même parfois plus, vont transmettre cet événement qui va donc être géré sur plusieurs générations parfois.
Un des symptômes, c'est d'avoir des craintes, des peurs dans des situations où on n'a pourtant, on va dire, aucune raison logique et rationnelle d'avoir comme ça des craintes et des peurs.
Le problème de ce type de craintes, quand elles surviennent après un événement qui a réellement eu lieu, c'est qu'on ne peut plus vraiment dire qu'elles sont irrationnelles. Quelqu'un qui est victime ou qui a été proche d'une victime d'un accident d'avion va avoir du mal à remonter dans un avion. Pour les autres, ce sera irrationnel. Pour lui, proche d'un événement catastrophique, ce sera rationnel. Quelqu'un qui a été victime d'une agression dans un parking souterrain ou dans un ascenseur va avoir une incapacité à reprendre ses moyens de déplacement. Pour les autres, ça paraîtra fou. Pour lui, ce sera tout à fait logique. Et c'est là où on voit qu'on rentre dans une autre dimension de psychologie différente du tout venant. Les victimes ont basculé de l'autre côté, ils ont vécu ce qu'on appelle l'effraction dans notre illusion d'immortalité. Ils savent que nous ne sommes rien, que tout peut basculer très vite et donc, bien sûr, ça entraîne des peurs conséquentes de beaucoup de choses.
On parle
de l'importance d'une thérapie.
On parle là des conséquences directes sur les personnes touchées de près, on va dire, par les attentats du 11 septembre, Christian Navarre. Mais d'une manière plus globale, il y a eu un changement aussi dans la société entière américaine. Il y a un psychologue américain qui dit « Le peuple américain a été expulsé de Disneyland. Ça marque la fin du sentiment d'invulnérabilité et de liberté des Américains. » Vous partagez cet avis ?
Alors, je partage non seulement cet avis, mais je pense aussi que ça a impacté toute la planète. C'est-à-dire qu'un certain mode de civilisation et de protection des grandes puissances qui pensaient être justement à l'abri après les premier et deuxième conflits mondiaux se rendent compte à cause du terrorisme qu'ils peuvent être en danger même chez eux. Et l'impact planétaire est aussi dû aux médias. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, une catastrophe mettait justement 10 jours à être relayée sur la planète. Alors que là, l'immédiateté, tout le monde se souvient, même en France et en Suisse peut-être, du moment où les Twins se sont effondrés. Tout le monde en peut encore en parler. Tout le monde se souvient de cet instant, ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Donc on voit bien que à la fois les Américains ont vécu ce traumatisme collectif qui va rester et qui va effectivement faire bouger, on le voit bien, peut-être leur sentiment d'invincibilité. Mais tout le monde occidental, et bien évidemment le reste de la planète, a aussi été marqué. Donc on voit bien là l'événement traumatique dans ce qu'il y a de plus profond qui impacte la psychologie de chacun.
Ça veut dire que c'est un événement qui va marquer durablement la génération des personnes qui y ont assisté, mais qui pourraient être oubliées par la suite, un peu comme la Première Guerre mondiale qui tombe petit à petit dans l'oubli.
C'est là où on voit l'accélération du temps, l'accélération médiatique, là encore, et l'accélération des techniques qui fait qu'un événement chasse l'autre. On voit bien d'ailleurs les derniers conflits en cours en Afrique du Nord, l'un suit l'autre, et effectivement, on a tendance à oublier de plus en plus ce qui s'est passé il y a 2, 3 ans, 4 ans. Il n'est pas exclu que dans 50 ans, ce soit effectivement un détail technique qui sera difficile à digérer, surtout pour les Américains. On voit bien aussi les conflits qui ont été secondaires à cet attentat. Donc ce qui a changé, c'est le terrorisme planétaire. C'est la panique qui peut tous nous prendre.
Le psychiatre français Christian Navarre, spécialiste des situations de crise. Forum sera en direct de New York dimanche soir pour une émission spéciale 10 ans jour pour jour après les attentats du 11 septembre 2001. Ce sera dès 18h sur la première. Et on retrouve comme tous les vendredis la carte postale russe de notre correspondante à Moscou, Madeleine Leroyer, qui nous parle aujourd'hui des députés de la Douma qui s'apprêtent à examiner une proposition de loi qui restreint l'accès des femmes à l'IVG. Le pays a pourtant été le premier à légaliser l'interruption volontaire de grossesse en 1920, au lendemain de la révolution bolchevique. Mais dans le contexte actuel de crise démographique, l'avortement est considéré comme antipatriotique.
Battez-vous contre l'avortement, pas contre les femmes, tel est le slogan en lettres rouges et noires de ces manifestants, une petite centaine d'hommes et de femmes venus défendre le droit à l'IVG. Katia, à 27 ans, tient à bout de bras un panneau, mon corps, c'est mon affaire.
Nous devons avoir le droit de choisir, avorter ou mener notre grossesse à terme. Conditionner l'avortement à l'autorisation du mari, c'est la fin. La femme sera sous pression, uniquement considérée comme un objet. Je suis contre ce retour en arrière patriarcal.
L'accord écrit du conjoint pour une femme mariée, celui des parents pour une mineure, c'est bien ce que prévoient les amendements portés par la députée Yelena Mizulina, réputée pour sa proximité avec l'Église orthodoxe.
C'est un meurtre, le meurtre d'un enfant. Or, la Russie se meurt. Depuis le recensement de 2002, nous avons perdu 1,4% de la population. Faut réfléchir. Si nous sommes patriotes, nous n'avons pas d'autre choix que de chercher à augmenter la population.
Des arguments balayés par les médecins comme Lyubov Yerafieva. Elle est gynécologue obstétricienne et dirige l'association russe pour le planning familial.
Cela n'a rien à voir avec la démographie. Notre démographie est en crise à cause de l'importante mortalité, pas à cause du nombre d'avortements. En Russie, l'avortement a été légalisé en 1920, puis Joseph Staline l'a fait interdire en 1936. Malheureusement, nous connaissons déjà la conséquence tragique, la mort de milliers de jeunes femmes.
Rétablie en 1955, l'IVG est demeuré pendant toute la période soviétique le principal outil de contrôle des naissances.
Nous n'avions que des préservatifs de très mauvaise qualité. Il n'y avait rien d'autre en Union soviétique. Nous avons vécu derrière un grand mur. Il n'y avait aucune information sur les nouveaux moyens de contraception, et qui d'ailleurs n'étaient pas importés. Tout cela n'est apparu que dans les années 1990.
En 20 ans, le nombre d'avortements a été divisé par 4. Il n'en reste pas moins élevé, avec 1 300 000 IVG par an, soit 70% naissance. Aujourd'hui, à peine 20% des femmes russes prennent la pilule, 12% choisissent le stérilet, et surtout plus de la moitié utilisent des méthodes inefficaces comme le retrait ou le calendrier. Ces militants réclament des campagnes d'information massives. Peu de chances qu'on les entende. À peine une dizaine de journalistes russes ont couvert leur rassemblement, soigneusement encadrés par des barrières installées par la police.
La carte postale russe de notre correspondante à Moscou, Madeleine Leroyer, que l'on retrouve tous les vendredis dans le journal de la mi-journée. Détails et photos sur notre site internet rsrinfo.ch. Et le plaisir d'accueillir Jacques Roman, comédien bien connu des auditeurs de la radio suisse romande. Bonjour.
Bonjour.
On vous reçoit aujourd'hui parce que vous allez participer à une performance artistique demain à 15h au théâtre de 21 à Lausanne. L'opération s'appelle 3h pour le Japon. Vous allez lire sur scène des extraits du livre Hiroshima, fleur d'été de Tamiki Hara.
Oui, en somme, tout est dit, il n'y aurait rien d'autre à dire. J'ai contacté le 221 qui s'associe à cet acte quelques mois après la catastrophe de Fukushima. Et pour des questions de programmation, nous n'avons pas pu trouver de date avant ce 10 septembre. Je tiens à dire qu'il n'y a pas d'intention dans la proximité du 11 septembre.
Parce que ça fera 6 mois le 11 septembre également, Fukushima.
Exactement.
Alors on va tout de suite dire que l'intégralité des recettes sera reversée à une association japonaise en faveur des enfants. Oui. Faire comme ça un parallèle entre la bombe atomique larguée sur Hiroshima le 6 août 1945 et l'accident nucléaire du 11 mars dernier à Fukushima, ça fait quand même un sacré grand écart.
Non, il n'y a pas de parallèle. Et quand on a consacré 45 ans de sa vie à la culture, comme je l'ai fait, on a eu le temps de se poser la question des pourquoi et des comment. Et peut-être qu'on arrive sur la dernière ligne droite, avec qui et pour qui. Donc la question essentielle pour moi était de faire quelque chose en faveur des enfants de Fukushima. Pourquoi lire particulièrement Hiroshima, fleur d'été? C'est qu'il s'agit du premier témoignage en ce qui concerne les effets du nucléaire militaire. Effets du nucléaire, qu'il soit militaire ou non, dans le cas de l'accident de Fukushima. Et que longtemps, ce témoignage qui a été écrit durant l'année 45, 46, 47, avant que ne se suicide Tamiki Hara, a été évidemment complètement censuré, d'abord par les Américains, et ensuite, je dirais presque naturellement par l'Europe. Il faut savoir que ce livre a été traduit et publié seulement en 2007. Voilà. Alors que je pense que si des antinucléaires nous écoutent, ce récit, s'ils ne le connaissent pas, est un récit bouleversant parce que c'est pas du tout. On n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans le. C'est pas une love story. Hein. C'est un témoignage extrêmement objectif d'un homme qui ne fait plus que décrire. Je dirais presque follement, follement, parce qu'il n'y a pas les mots pour dire ça, et qui décrit, qui décrit. Qui décrit. C'est une description. Ce qui m'a frappé au lendemain de la catastrophe de Fukushima, personnellement, parce que je suis quand même à l'écoute des radios, pas seulement de la radio romande, mais aussi de France Culture, j'ai été fasciné, mais réellement fasciné, de voir que dès le lendemain, toutes les émissions, on avait beaucoup d'invités, bien entendu, mais étaient en train d'essayer de chiffrer la catastrophe de Fukushima. Combien tout ça allait coûter ? C'est assez fascinant de voir que simplement le discours économique était le prépondérant et qu'il n'était pas du tout question, une seule fois, de la catastrophe humaine. Alors voilà, rappeler là non pas une catastrophe, mais la réponse de la barbarie à la barbarie, voilà.
Et ce sera donc demain au théâtre 221. Vous lirez ces extraits, Jacques Roman, du livre Hiroshima, fleur d'été de Tamiki Hara. C'est à 15h au théâtre 221 à Lausanne. Merci beaucoup d'être venu quelques minutes dans ce journal.
Merci de m'avoir invité.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en baisse de 0,3% à 5512 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Stéphanie Collère.
Le soleil a déjà bien percé la couverture nuageuse. Sur l'arc lémanique et le centre du plateau, le temps est bien ensoleillé. Le temps sera bientôt bien ensoleillé en toute région. L'évolution est un peu plus lente sur le nord du plateau et sur les préalpes. Les maxima atteindront 25 degrés sur le plateau et 27 degrés en Valais. La nuit sera claire et sèche. Demain, l'ambiance sera brumeuse en matinée. Quelques bancs de brouillard auront pu se former localement sur le plateau. Ils se dissiperont au lever du soleil. La journée qui suivra sera ensoleillée et chaude. Les minima seront proches de 15 degrés. Les maxima se situeront entre 27 et 29 degrés en pleine. Le temps sera encore bien ensoleillé dimanche matin, puis la nébulosité augmentera l'après-midi. Les premiers orages éclateront en montagne et s'étendront en soirée à toutes les régions.
La météo avec alloboisson.ch 0848 444 111.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Ce soir, forum entre 18h et 19h, émission spéciale élection au Conseil des États. Nathalie Ducommun et Alexandre Richard seront en direct et en public au Rathaus pour faire débattre les candidats du canton de Berne. Il est 13h.